Chip, chop, chip, chop.
Éphémère, 25 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 20 janvier 2007 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui ?
Maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD et télévision, suivi de, ça c'est du sport, à 13h les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite à 15h du mix avec Zarma Farai, ça c'est du reggae, à 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h Last Hetero Experience, 21h30 Stay Tuned. Et pour votre information, eh ben... sachez que quand même il fait encore suffisamment doux. Mais attention, hein, ça va bientôt refroidir, il va pleuvoir et en plus va avoir beaucoup de vent. Alors c'est maintenant faire les soldes ou jamais. Hein. Ah bah oui, c'est la grande période consumériste, donc c'est maintenant ou jamais. Non, ça vous intéresse pas, vous en fichez, vous êtes bien au chaud. On s'est mis dans vos oreilles. Ah bah oui, tant mieux, vous êtes sur FMR 89.1 MHz, nous sommes 24h sur 24 sur www.radio-fmr.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Eh ben bonjour, c'est Xavier avec vous jusqu'à 13h et des pelures. Je crois que là on va pas trop déborder de mon côté. Thomas n'est pas là puisqu'il est en train de se préparer soigneusement pour Angoulême. Moi aussi, je vous rassure, mais moi... j'ai le minimum de professionnalisme de tenir l'antenne, hein. Et puis il y a du sport là qui est en train de s'agiter de tous côtés et qui fait mais. Bon. Allez, en introduction et en générique de cette émission pour pas changer, je vais dire un truc qui tape Artful Dodger and Romina Johnson Moving Too Fast. Et n'oubliez pas le site internet radio www.radio-fmr.net pour commenter l'émission.
Never be
C'est déjà la 99e du supplément week-end. Je vous rassure, le générique que l'on a foutu en intro, c'est la dernière fois. Tout à l'heure, je le casse en direct. Ainsi que tous ses congénères, là. J'ai le disque dur, je le pète, hein. Promis juré. Mais on va vous parler, avant de parler de la centième qui aura lieu dans 15 jours, ce que l'on va faire entre les deux, c'est-à-dire que moi et Thomas, nous ne serons pas à l'antenne, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de supplément week-end, il y aura du sport, d'ailleurs du sport bonjour, du sport.
Bonjour.
Ah voilà, lui il sera fidèle au poste et à mon avis il va principalement parler de sport et de musique, mais nous, on sera en train de crapahuter dans les Charentes, dans la capitale du Cognac, à Angoulême pour...
Du côté de Chirafarin.
Et aussi de Ségolène.
Ouais,
puisqu'ils ont été en alternance à la région Poitou-Charentes, on va y venir justement, c'est très intéressant. Tout simplement pour le festival La Bande Dessinée d'Angoulême, un festival cette année qui sera un peu exceptionnel tout simplement parce que le président c'est un chieur, il s'appelle Lewis Trondheim, il a toujours haï les institutions et notamment le fait que le festival soit sponsorisé par Michel-Édouard Leclerc qui est un grand fan de bande dessinée mais qui est contre le prix unique du livre. Et effectivement, il y a grosse bisbis, il y a scandale au taquet, ça n'a pas arrêté, à vrai dire. Hein. Il y a eu aussi le changement de la direction de l'organisation du festival, puisque Jean-Marc Thévenet a dû partir pour une raison d'un scandale. Oui, il faisait des ménages aussi dans d'autres festivals et ça coinçait un peu. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait que ça fait 2 ans que la grande place du Champ de Mars, ce qui est une place immense, beaucoup plus grande que celle du Capitole, qui est la place où traditionnellement a lieu sont posées les bulles du festival depuis maintenant 1980. Cette place est en travaux, il y a un grand trou, ils sont en train de faire un gigantesque parking souterrain et un centre commercial souterrain. Les travaux ne sont pas terminés et donc cette année c'était de savoir est-ce que ça va être des petites bulles dispersées, ce à quoi la plupart des éditeurs ont dit si c'est comme ça, nous on se barre parce que c'est ingérable. Ou est-ce que ça va être une grande bulle? Et ça va être une grande bulle, mais en dehors du centre-ville. Donc cette année, c'est pas les éditeurs qui râlent, c'est tous les commerçants, les restaurateurs qui disent « Oh mince, les bars, les restaurants, comment voulez-vous qu'on remplisse ?» Puisqu'ils auront leur propre restaurant, ils ont une espèce de cité de la bande dessinée qui est à part. Rappelons que Angoulême, c'est une ville qui fait, c'est une agglomération plus exactement, qui fait dans les 150 000 habitants, mais c'est plein de petites villes en fait séparées et qui ne vivent assez difficilement. Je veux dire, le seul facteur de réel de vie, c'est le pôle de l'image avec son université entre guillemets, c'est-à-dire son école, ses écoles spécialisées autour de la bande dessinée, de l'image, de l'animation, son pôle de dessin animé, de production de dessin animé, que cela soit bien évidemment Lucky Luke et plein d'autres productions sont issues de là-bas, même si c'est sous-traité après en Corée du Nord ou à gauche à droite. Il y a énormément de productions qui viennent des Charentes. Et puis il y a aussi la production audiovisuelle à côté, puisque par exemple si vous regardez Rayon X avec les frères Bogdanov, la recréation en 3D des frères Bogdanov est faite grâce à un élément qui fait partie de l'école de l'image, qui est ce que l'on appelle le dôme infographique, qui est une gigantesque pièce de motion capture où on peut capturer votre visage et vos mouvements avec près de 40 caméras. C'est assez impressionnant. Y aller, c'est assez étonnant d'ailleurs. On m'a pas demandé quand même de me mettre au milieu, mais c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment une infrastructure. Et en dehors de ça, il y a des festivals. Il y a par exemple le festival Musique Métis qui a lieu en mai, où il est question de musique du monde. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens à Radio Éphémère qui en ont entendu parler du festival de Musique Métis. Et aussi le rallye du Rempart qui est une gigantesque réunion de vieilles voitures. Il y a plein de choses de ce genre, mais ce qui fait vivre littéralement Angoulême, c'est ce moment précis, ce dernier week-end de janvier, où à l'occasion du festival de la bande dessinée, la taille de l'agglomération passe de 150 000 habitants à 150 000 habitants, plus 200 000 visiteurs qui viennent de toute la France. Alors Angoulême, c'est quand même un sacerdoce. Il fait froid, il pleut. L'an dernier, il a neigé. Je peux vous dire que moi, j'étais avec des chaussures de toile quand il a neigé. J'étais content. Et voilà, c'est crevant. Il y a du monde. Il fait chaud sous les bulles, les tentes. Dehors, il fait froid. On se trimballe des kilos de bouquins. Le samedi, c'est impossible de faire un pas. D'ailleurs, le grand jeu, c'est quand on fait nos plannings, c'est de se laisser un samedi le plus vite possible. Comme ça, on est tranquille. On se met dans un cinéma ou bien dans un lieu quelconque. Et à côté de cela, eh ben, y a quand même des expos à voir. Il y a, pour les professionnels, il y a le marché des droits. Il y a plein d'animations. Il y a des conférences qui sont assez intéressantes. Il y a des concerts de bande dessinée où cette année, Brigitte Fontaine sera avec Blutch. C'est-à-dire, Blutch va dessiner et Brigitte Fontaine va chanter par-dessus en fonction de ce qui est dessiné. C'est une idée assez originale. Et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que c'est Benoît Mouchard qui a eu cette idée et ça marche plutôt bien. Il faut avouer, c'est pas mal. Et là, c'est la première fois qu'il y a une star vraiment qui s'y implique, à savoir Brigitte Fontaine. Les places sont déjà d'ailleurs bookées au taquet et il y a plein d'autres choses à voir. Après, il y a les coups d'éclat. Je vous ai parlé de Lewis Mondheim cette année. Normalement, le président chaque année a droit à son exposition et lui, il a dit non, c'est hors de question. Bon, alors à la place, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, mais c'est le centenaire de Hergé. C'est le centenaire de la naissance du créateur de Tintin, Georges Rémy. Eh ben, on va faire une exposition sur Tintin. Et figurez-vous que l'information vient d'être confirmée hier. C'est une information qui a été sortie par Nicolas Anspach de Actua BD, que je salue bien bas d'ailleurs, Nico, qui a sorti une bombe. C'est-à-dire que la fondation Hergé a toujours été à couteau tiré avec la plupart des gens avec qui il travaille, que cela soit Canal+ et Lipsanim pour le dessin animé et plein d'autres choses. Et ben là, ils sont à couteau tiré avec Casterman et ils parlent de retirer à Casterman l'édition et la gestion des bouquins au niveau international. Et ça fait du pognon, mais c'est vrai que Tintin, ça vit plus tellement. Mais mince, Casterman, c'est l'éditeur historique de Tintin en album. Et voilà, donc on va voir ce qui va en être. Parmi les autres polémiques, il y a aussi le fait que c'est un festival qui est assez franco-français, mais surtout un festival qui joue un peu trop sur le côté institution. C'est-à-dire que cette année, il était question au sein des éditeurs que les éditeurs manga se fassent un coin à part, avec une agora, vraiment un truc où ils puissent déconner, faire un cosplay, c'est-à-dire, vous savez, un carnaval avec des gens qui sont déguisés en dessin animé, ce genre de truc, comme l'an dernier, mais cette fois-ci en plus gros. Et il semblerait que au sein de l'organisation du festival, il y a eu les pour et les contre, et les contre ont gagné. On dit non, il faut que Angoulême soit une institution, que cela soit respecté, etc. Donc résultat, est-ce que la bande dessinée un peu trop institutionnelle ne va pas bouffer Angoulême et Angoulême va perdre un peu d'un jeune public? C'est toute la question que l'on se posera. On vous racontera tout ça lors de la 100e émission du supplément week-end. C'est dans 15 jours sur cette antenne à partir de midi sur Radio FMR 89.1 MHz. Il y aura Thomas, il y aura moi qui y seront allés. Du sport, lui, je suis sûr qu'il sera un plaisir de zapper sur la chaîne de télé pour voir un peu ce qui se passe. Par exemple, le matin à 8h30, il y a un monde de bulles sur la chaîne Sena. Et j'espère qu'un jour le journaliste va faire partie de l'association des critiques bande dessinée parce qu'il fait un boulot, même si pas énorme, mais quand même c'est un très beau boulot d'interview.
Ouais. Moi j'avais juste, comme je suis en train de potasser mon programme télé, juste pour te dire qu'il y avait un super docu sur TV5 vendredi prochain à 21h sur Edgar Pierre Jacobs.
Le créateur voilà. De Black et Mortimer, ouais. Du Rayon U, et c'est le copain de Hergé. Et c'est celui qui, lui, n'a pas voulu déléguer, justement, pas trop travailler sur l'œuvre d'Hergé, et qui a vraiment travaillé, et qui a mis ce charme anglais dans la bande dessinée franco-belge, qui a inspiré Flock et tous les autres.
By Jove,
oui. Ou encore Heavens, ça c'est énorme.
Bon, c'est donc vendredi prochain hein, sur TV5, la chaîne francophone. Donc nous, à 21h, prime time en plus. Quoi.
On sera en tout plein festival, nous, de notre côté. Et vendredi, non, la remise des prix a lieu cette année samedi. Donc on aura l'info le dimanche, donc on pourrait même pas appeler pour prévenir et tout ça. On va entamer les sorties bande dessinée. Et zouf. Oui. Oups, parce qu'en fait on a un lecteur CD qui est un peu capricieux là comme d'hab, et que j'avais laissé filer de la musique. On commence par Takatoshi Yamada, C'est une nouvelle série qui s'appelle Docteur Koto. Le premier tome vient de sortir dans la collection Big Kana. Kana, c'est une spin-off de Dargo qui s'occupe de la bande dessinée asiatique. Et c'est une série de Toubib. Bah alors, dans les souris de Toubib, qu'elles soient télévisuelles ou qu'elles soient sur papier, eh ben, il y a les petits et les grands bobos. Les corps meurtris, des cris, des larmes, du sang. Et des gens en blouse qui lancent des noms absolument barbares dans l'urgence tout en essayant de garder du mieux possible leur calme. Et dans le genre manga à la urgence, on pourrait citer le vénérable Black Jack d'Osamu Tezuka, qui est traduit en France chez Glénat, dont le réalisme est accentué par le fait que le maître, le demi-dieu de la manga, avait passé un doctorat en médecine, tout en peignant des séries à la tonne. Il y a plus récemment Say Hello to Black Jack, chez Kana, qui tient plusieurs reportages fiction et qui a, à notre connaissance, sa seule BD à être à l'origine d'une loi sur les droits sociaux et notamment, ben, justement, sur les conditions de travail des internes en médecine. Le docteur Koto Kansuke, lui, est très différent. Il a des maladresses, il supporte mal le bateau, il a le mal de mer, il supporte mal la chaleur et a cet air éternellement fatigué et néanmoins souriant. Ah, les habitants de l'île de Koshiki ont vraiment du mal à lui faire confiance. Qu'est-ce qui pourrait motiver un médecin d'aller s'enterrer dans une petite île, à l'écart de l'archipel japonais? Une île qui vieillit, puisque les jeunes préfèrent la ville, qui a de moins en moins d'enfants, que la population vit de plus en plus vieux, dont la seule industrie est la coopérative de pêche, et l'unique infrastructure médicale, un petit dispensaire, qui a connu des jours meilleurs, avec des moyens indigents et très légers. Peut-être suffisant pour la bobologie, mais pas vraiment en cas de détresse médicale. Et puis les derniers médecins à avoir géré cette officine étaient soit taïwanais, baragouinant un vague japonais, soit manquaient sérieusement d'expérience. Or, la moindre erreur de diagnostic peut être fatale, surtout quand on est isolé, à 6 heures de bateau du plus proche hôpital. Koto est pourtant très loin d'être un manche. Il a exercé au CHU de Tokyo, où il s'est montré chirurgien de talent. Mais pourquoi, alors que sa carrière ne fait que débuter, s'enterre-t-il sur ce rocher? L'envie d'une île calme et paradisiaque? À d'autres. Même l'infirmière Ayaka, 22 ans et native de l'île, doute sur un personnage. Et la méfiance des habitants n'est pas là pour l'aider. Qu'il fasse un exploit comme une opération d'appendicite sur un môme dans un bateau de pêche en plein milieu de l'océan, ou la pose d'un clip sur un anévrisme. Non, c'est une population de marins pêcheurs, de personnes âgées, assez conservatrices, jusqu'à préférer la médecine des plantes plutôt que l'allopathie et la médecine hospitalière. Bref, le médecin va être très long pour que le docteur Koto soigne réellement ces gens. Takatoshi Yamada, Docteur Koto, le premier tome vient de sortir chez Big Kana, dans la collection Big Kana, qui est une collection adulte chez Kana. Je vous recommande, parce que c'est assez intéressant, puisqu'on sort, on sort littéralement du cadre hospitalier. Ça ressemble plus, je dirais, au syndrome de... à la maladie de Sachs de Vinclair. J'ai oublié de préciser, il n'y a pas exercice illégal de la médecine. Oui, il fait des opérations chirurgicales, mais il est chirurgien lui-même. Donc il n'y a aucun souci, hein, c'est pas la peine d'appeler. Change littéralement d'ambiance. Avec sur un scénario de Grant Morrison et un dessin de G.H. Williams III, Simon Blanqui, Cameron Stewart, Ryan Soko, Fraser Irving, Seven Soldiers of Victory. Le tome 1 s'appelle Étrange Aventure. Il vient de sortir chez Panini Comics. Et ils sont 7 héros. 7 personnages de la mythologie d'ici, oublié parmi la foule de surhommes du second plan, pointant à l'agence pour l'exploit. Shining Knight, Guardian, Clarion, Bellator, Frankenstein, Mr. Miracle et Zatanna. Grant Morrison souhaitait regagner une certaine liberté narrative sur le genre super-héros sans quitter le confort d'une grande maison d'édition comme DC. Il a donc décidé de reprendre ses personnages et d'en faire un groupe de crossover, un peu comme la JLA, la Justice League of America, avec Martian, Superman, Batman, Wonder Woman, et d'en faire ce qu'il en veut sans risquer d'être inondé sous les tonnes de foudre des fans de comics Quadra Capillicutator et Adipeux. Il me reste à trouver aussi un groupe de seconde main, très peu servi, faible kilométrage, mais complètement à rénover. Le choix du scénariste s'est porté sur les Seven Soldiers of Victory, des personnages créés à l'apogée de l'âge d'or du comics en 1941, dont le seul rescapé est un certain Green Arrow, et où déjà y émergeait Guardian. C'est un projet plutôt ambitieux et lourd que Grant Morrison a réussi à vendre à DC. Cette mini-série de 4 albums. Le chiffre 7 va revenir continuellement dans l'histoire et lui porte chance. Les personnages sont denses, la vie n'a pas été tendre avec eux, ils sont plutôt dépressifs, tendance contagieuse. Mais surtout, sur le plan de la réalité éditoriale, ils sont quasi vierges. On peut les sacrifier si on le souhaite, se permettre des fantaisies même pas envisageables avec Daredevil, Flash ou Wonder Woman. Bref, le champ est libre pour que les auteurs en fassent ce qu'ils veulent. C'est du velours. Et ça promet une réelle originalité, des pirates grand siècle, écumant le métro new-yorkais, une magicienne qui a perdu le don de parler à l'envers, un personnage de mythologie grecque envoyé dans le troisième millénaire, un justicier sponsorisé par un journal populaire. Tout est permis, même de citer graphiquement Tim Burton ou Philippe Drouillet. Si on devait prouver une fois de plus que le genre de super-héros peut être vraiment adulte, cette série en est un exercice de style assez brillant. Grant Morrison au scénario et au dessin, collectif composé de G.H. Williams Reed, Simon Blanqui, Cameron Stewart, Ryan Soko et Fraser Irving. Seven Soldiers of Victory, le tome 1 s'appelle Étrange Aventure, c'est vient de sortir en France chez Panini Comics. Hero Beyond the Key, le troisième tome vient de sortir, l'important c'est d'y croire, c'est édité en France chez V2O Éditions, et c'est toujours Mike Kunkel qui est derrière et qui me fait l'honneur de l'édition française de pages originales. Il faut dire qu'il a été très 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 bien accueilli lors du dernier festival d'Angoulême, donc il en a été ému. Allez, petit résumé, le grand-père de Tyler avait laissé un héritage, un drôle de cadeau à son petit-fils, une montre à gousset cassée et un ours en peluche. Il se trouve que les deux éléments ont plongé Tyler dans la plus formidable des aventures, celle d'avoir de super pouvoirs et de sauver les gens. Ce qui au départ aurait été une farce très drôle devient brusquement une histoire très touchante. Car par-delà la disparition de la natte qui lui était très chère, le petit Tyler va découvrir que le monde ne s'arrête pas de tourner et que c'est à lui de prendre cette lacune dans les cœurs. De combler, excusez-moi, cette lacune. On peut ou non apprécier le dessin de Mike Unkle, le fait qu'il préfère rester au crayonné, sans encrer, donnant un aspect très inachevé à son histoire, mais lui permettant de garder la spontanéité de dessinateur d'animation. Un trait jeté en noir et blanc, avec juste la pointe de rouge d'une cape de super-héros. Il a le chic pour exprimer un mouvement, et dispose aussi d'une palette d'expressions extrêmement riche pour ses personnages. Tous leurs mouvements, émotions sont visibles sur leur visage, fortement amplifiées soit, mais quel bonheur de lire les traits fugaces qui passent fugitivement comme le sourire d'un magicien avant de faire le tour, ou le regard de celui qui sort d'un rêve et scrute les détails qu'il ramène à la réalité. Il y a cette histoire, absolument géniale, d'un garçon qui découvre que son ours en peluche est en fait un super-héros. C'est bourré d'inventions et l'auteur amène petit à petit son lecteur là où il veut. Dans ce tome qui finit la première partie, Tyler découvre quelles sont les réelles implications de son pouvoir, un premier pas vers la responsabilité d'adulte, mais délicatement, sans briser les rêves d'enfant. Le strip comique devient conte et ses révélations, même très fracassantes, servent une innocente petite morale. Le titre de l'album est justifié, c'est une très belle leçon. L'important, c'est d'y croire. C'est le troisième tome de Hero Beyond the Kid. C'est dessiné et scénarisé par Mike Unkle et je vous le recommande, c'est chez V2O Éditions. Midi 30 minutes pile sur l'horloge atomique de la radio, c'est la publicité.
Alors d'après vous, combien de footeux sont morts d'une crise cardiaque pendant la dernière saison de Bundesliga?
3?
T'aurais suivi Ça c'est du sport, tu le saurais mon gars.
Ça c'est du sport, tous les samedis 13h sur FMR. Y a pas que les mauvais gestes au foot. FMR. Allez, en interruption, c'est dans la lignée directe de la musique du bouquin que j'ai chroniqué. Nene Cherry Manchida, 88.
Annoyed against this waiting and ecstatic to receive for the meat.
Du sport, tu peux recontinuer à essayer de faire ta chronique très vite.
Oui, pourquoi?
Parce qu'il y a quelqu'un au téléphone. Salut Thomas.
Bonjour, Xavier du sport.
Salut. Ça va, ça va. Bah, je viens de terminer, tu vois quoi.
Oui, parce que comme d'hab, du sport a été un petit peu en retard.
Ouais.
Enfin, ça arrive. Alors Thomas, t'as un peu fait le tour de ce que tu vas te préparer à faire pour Angoulême?
Voilà, je suis en train de préparer mon petit linge, je prépare les BD à dédicacer, tout ça.
Ouais, tu prépares ton petit déj.
Oui.
Tu sais à quelle heure c'est passé hier Doctor Who en VO? Ils ont commencé à 1h la diffusion. Tu sais à quelle heure je me suis levé ce matin pour faire mes chroniques, là, les chroniques passablement écrites et bien, tu vois. À peu près, ouais.
Bon, c'est juste pour te dire que c'est pas les Coréens du Nord qui animent Lucky Luke, c'est les Coréens du Sud. Et comme j'ai visiblement perçu que tu cherchais le nom de Xilam, voilà, c'était Xilam que tu cherchais tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, entre autres. Hein. Je le cherchais pas vraiment, mais c'est vrai.
Et
c'est à préciser.
Il faut plus le dire à l'antenne, mais j'aimerais bien que tu me prêtes Seven Soldier. Ça a l'air pas mal.
D'accord, enfin. Docteur Koto est aussi très très bien. C'est une série médicale. Mais Seven Soldier, attends, parce que là, tu verrais du sport. Là, il est encore en train de feuilleter et je sens que c'est la chronique BD est pas terminée d'ailleurs.
Non.
Voilà. Et en fait, tu vois, si je le montre à Dus, 1, 2, 3.
Putain, ma vue est déclinante. Hein, okay. Fais-le voir de plus près. Là.
Non, Thomas l'a réservé avant. Mais pour après Angoulême. Donc tu peux le prendre d'ici Angoulême. Tu as le temps de le lire.
Dommage. Non, parce que j'avais entendu là. Parce que tout en préparant, j'écoutais quand même. Et quand j'ai entendu Grant Morrison tic, ça a fait tic. Tu sais quoi, mon cerveau s'est connecté. Quoi, et voilà quoi. Ok. Bon, bah tant pis. Hein.
Bah non,
mais vas-y, tu es sur place. Vas-y, j'attendrai.
Ça marche. D'accord.
Allez, bonne émission.
Allez, bien à toi, Thomas.
Ciao.
C'est à toi, Dus.
Ah, mais c'est carrément, quoi. Non, je suis en train de me remettre en situation, là. Alors, c'est pas évident, quoi, parce que... Ouais, ok. Un petit peu de BD encore avec, dans la collection Marvel Deluxe, s'il vous plaît. Hein.
Bah, yes.
En fait, si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez que comme cadeau de Noël, j'ai reçu ce magnifique album, entre autres. Et il fait partie d'une collection, dans cette collection Marvel, où on commence à trouver des trucs vraiment bien. Quoi, là, je passais devant la librairie, je sais plus laquelle, quoi, en ville. Et il y avait également le X-Men, l'aventure, je sais pas quoi, là, en Marvel Deluxe, là, qui avait l'air vraiment pétante, quoi. Genre les X-Men de la première génération.
C'est peut-être Atmosphère, celle qui est à côté de ton taf.
Ouais.
Salut Odile.
Je voulais pas la citer,
mais
enfin,
ouais,
bon, okay,
mais
hein.
Odile, elle me soutient depuis 15 ans, donc.
Ouais, non, voilà. Mais je sais bien, mais enfin bon. Pour pas désavantager les autres. Hein.
Bon, on saluera aussi Arcade et tous les autres.
Ouais, c'est ça, s'il y en avait qu'un. Okay,
Arcade, hein, Terre de Légende et album maintenant.
Et là, ce Marvel Deluxe donc, est consacré à Jack Kirby. Qui est Jack Kirby? Et ben, c'est tout simplement un des pères fondateurs du monde des comics.
On parlait de l'âge d'or tout à l'heure, c'est sa période, c'est 39, voilà. 40, 43.
Voilà. Alors si on remonte un petit peu à ce que j'ai dit samedi dernier en vous présentant le nouveau comics box, dans lequel il y avait un article très 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 intéressant sur le comic burning qui avait eu lieu dans certains états des États-Unis. C'était pas généralisé, mais enfin bon.
Oui, ces autodafés.
Ces espèces d'autodafés qui concernaient les comics. C'est carrément, alors, si tu j'ai bien lu l'article, c'est vraiment très bien documenté et tout. Ils ont fait un travail d'archiviste absolument dingue, à propos de toutes les coupures de journaux qui sont parues à ce sujet-là. Hein, de la période, on va dire, 52 jusqu'à 58-59, hein, ça a correspondu avec également le macartisme à une certaine époque. Il y avait toute une vague comme ça.
Il y a eu le macartisme et le Comics Code Authority qui en est sorti, un peu le code ICE, c'est-à-dire une limitation qui est faite par les industriels du secteur pour éviter que l'État légifère. Et ils se sont montrés plus royalistes que le roi.
Voilà, absolument. Hein, qui a d'ailleurs scellé la fin du Golden Age des comics. Hein.
Le Golden Age, c'est 1943-44, la fin de l'impulsion des super-héros. Mais par contre, c'est vrai que ça a commencé là-dedans, puis ça s'est effondré, et après, il y a eu le Silver Age en 63.
Voilà. Ouais. Donc, et dans cet article très, 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 très intéressant, justement, quoi, à propos de ces comics brûlés et tout ça, on parlait justement également un petit peu de Jack Kirby, de tout ce qu'il avait donné. Là, je sais plus du tout, j'ai complètement perdu le fil. Donc, Jack Kirby, donc est à l'origine donc de beaucoup de personnages hein, de chez Marvel. Hein. Le défaut qu'il a lui par rapport à Stan Lee, c'est qu'il est mort. Donc, il peut plus montrer sa tronche maintenant hein, en tant que père fondateur de comme Stan Lee, tu vois partout Spider-Man et tout. Il en profite bien. Bon, il a raison. Le mec il a donné hein. Bon, et Kirby,
et puis en plus il est mort en laissant une œuvre totalement cryptique inachevée qui s'appelle New Gods, et où là la plupart des fans ont lâché quoi.
Ouais. En tout cas Stan Lee, on le retrouve d'ailleurs dans ce numéro Jack Kirby Marvel Deluxe. Pourquoi? Parce que Jack Kirby et Stan Lee ont créé de nombreux personnages hein, le duo, et donc dans ce Deluxe eh bien sont réunis quelques-unes des histoires marquantes, on va dire, hein, des premiers boulots de Kirby, les débuts des différents super-héros, les débuts de Captain America, les origines de Hulk, le combat entre Spider-Man et la Torche, l'entrée en scène du Silver Surfer hein, avec les Fantastic Four, hein, la création des Fantastic Four, c'est un premier épisode, puis suit l'épisode où il y a Galactus qui arrive, qui veut tout bouffer parce que c'est un
bonjour, j'ai une planche à surfer, ouais. Mais je n'ai pas les cheveux longs.
Et au départ, on sait que Silver Surfer, c'est un méchant, hein, il est du mauvais côté.
Hein. Oui, c'est un guerrier.
Ouais, c'est le héros de Galactus, quoi. Et il y a également une bande dessinée qui avait été créée.
Héros, c'est pas la même orthographe. Attention, on fait de la radio, c'est héros, H-E-R-A-U-L-T.
Voilà, comme dans le temps, quoi. Et il y a également, alors ça, c'est un truc qui est vraiment très très rigolo. Hein, c'est l'auto-parodie hein, qui a été fait par Jack Kirby et Stan Lee, qui s'appelle The Eternals, et qui en fait est un détournement de la situation dans laquelle ils étaient dans leur boulot. Hein. Et puis bon, alors ils se reproduisent, hein, on les voit, Stan Lee, Jack Kirby, tout le monde,
manière super-héros.
Ouais, manière un petit peu super-héros, et puis pète les plombs, puis ça part dans tous les sens et tout. Alors c'est assez rigolo, ouais. Tout ça donc dans ce numéro de Jack Kirby. Si vous connaissez pas le bonhomme ou si vous avez un petit peu effleuré, c'est l'occasion hein, de rentrer dedans à fond les manettes. Hein. Ça c'est les incunables de toute façon. Marvel Deluxe, donc le Jack Kirby. Allez, tu montes un petit peu la musique. Hein, Bon ben on va se le faire tranquille en plusieurs parties. Alors toi t'as regardé la fiction hier soir hein, de
Poison d'avril. D'avril. Les Guignols en ont fait la publicité. On en a parlé pas mal. C'est en fait ça se passe. C'est l'histoire d'une rédaction d'une grande chaîne de télévision où on a un nouveau rédacteur en chef qui arrive qui dit je vais prendre la main du 20h. Je vais me parler des Français de ce qui les préoccupe, l'insécurité et tout ça. Et on est en mars 2002.
Ouais, ça a été tourné donc en 2002 quoi.
Ah non, c'est tout récent. Ça a été produit cette année par Arte et Point du Jour. Et il faut avouer.
Ouais, donc c'est une fiction a posteriori quoi.
A posteriori, fiction, la chaîne de télé est fictive, mais on reprend des éléments, on reprend des images de TF1, France 2, Canal+.
D'accord.
On reprend les événements de l'époque, on reprend la chronologie politique, ce qui s'est passé en coulisses et tout ça. Et c'est mais. C'était la claque. Et j'ai été déçu. J'ai regardé l'audience en temps réel. Arte était même pas dans le top 15. Ils ont dû faire en dessous du 1,5 point d'audience. C'est bien dommage parce que c'était un téléfilm assez bluffant. Arte s'engage de plus en plus dans des productions politiques de très très haut niveau. Déjà qu'ils font les jeudis soirs trash, une émission que maintenant Thomas va regarder en continu. Parce qu'il a loupé celle de jeudi dernier qui était très très fort.
Mais ça passe très très tard, hein, faut préciser.
Ouais, aussi, minuit hein. Et demi. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Et là, hier, 20h30 en prime time, un immense coup de pied dans la production. Bon, c'était un peu tendance gauchiste, mais quand même, c'était intéressant. Et on parlait, j'ai oublié d'en parler de ce. Angoulême, c'est en région Poitou-Charentes, dont l'ancien président de la région Poitou-Charentes, c'était notre aimé premier ministre Raffarin. Et actuellement, c'est. Eh ben, Ségolène Royal, et on va faire des interviews politiques à Angoulême, on vous ramène des bons trucs. Et là, franchement, on voyait le dessous des cartes, le on air et le off record. C'est-à-dire pourquoi on envoyait des journalistes inexpérimentés auprès de Chirac, à condition qu'elles soient jolies. Pourquoi Jospin s'est enfermé chez lui pendant 3-4 jours, il n'a pas donné une seule interview. Et il se faisait en fait tous les grands débats, Chirac versus Mitterrand, Giscard versus Mitterrand, et tout ça. C'est comme ça qu'il s'est fait, mais laminer, c'est énorme. C'était énorme. Chronique d'une défaite annoncée et poison d'avril. Les médias, ils sont pas mal fautifs, mais les politiques aussi, et c'est un complot, c'est génial.
Ok, bah quant à moi, bah j'ai pas eu la chance de pouvoir regarder ça vu que j'étais devant Bones, la nouvelle série de M6, hein, tous les vendredis soirs maintenant. Et ils vont vite épuiser le stock, je te le dis mon gars, parce que
il y en a pas beaucoup
par saison aux États-Unis et qu'ils en diffusent 3 par vendredi, donc là c'est un petit peu trop quoi. 3 c'est trop hein.
Le patron est devenu fou.
Déjà,
c'est la période des soldes. Hein.
Je continue à militer pour l'épisode unique par semaine. Enfin bon, un rythme régulier, mais enfin pas des trucs à la suite. Parce que
c'est ingérable.
Mais ça,
14, un gars, une fille avant le Dakar.
2, ça passe encore, mais alors 3, c'est vraiment de trop. Quoi. Alors bon, Bones, nouvelle série, donc initiée par le travail d'une romancière, elle-même anthropologue médico-légale, qui s'appelle Cathy Reich, qui est également productrice sur la série, bien entendu.
Oui.
Le personnage principal de cette série, qui s'appelle Temperance Brennan, interprétée par Emily Deschanel, est l'héroïne principale de ses romans, hein, qui ont pas mal de succès. Hein. Il y en a une autre, Patricia Cornwell, qui fait dans ce domaine-là médecine légale avec Kay Scarpetta.
Parce qu'elle, en plus, a carrément suivi des stages.
Voilà, donc, ça surfe bien sûr cette tendance. Et là, ben, c'est carrément la série qui est à ce sujet. Donc, Bones, hein, son nom l'indique. C'est d'ailleurs le petit surnom que David Boreanaz, l'acteur principal de cette série, le partenaire, le faire-valoir, on va dire, un petit peu d'Emily Deschanel, lui dit, il ne l'appelle pas par son prénom, Tempérance ou pas. Mademoiselle T, Mademoiselle Brennan, il l'appelle Bones, quoi, tu vois, puisque c'est l'anthropologue médico-légale, hein, celle qui, à partir d'os tout pourri, elle te dit, voilà, il était malade, il avait ça, non, il est pas mort étranglé, en fait, il a reçu 4 coups de couteau dans le dos, alors qu'il reste que 3 bouts d'os, tu vois, enfin, truc pas possible, et ils arrivent à le faire. Donc, après coup, bon, le sujet est vachement intéressant, je trouve, parce que bon, c'est ce que j'avais dit samedi dernier.
Je peux te faire un aparté, rien que pour rire.
Vas-y.
D'après toi, combien tu gagnes à jouer le cadavre dans un épisode de CSI ?
Oh, je sais pas, ça doit être bien, quoi.
Ah, $130.
Ah bah, c'est pas mal, merde, pour une journée.
Le minimum syndical, c'est $100.
Eh non, t'as une journée maximum de tournage. Qu'un épisode est tourné en une semaine, quoi. Ah,
voilà. Combien tu gagnes quand tu joues un squelette dans Bones? Il est nul.
Enfin bref, ce qui est très intéressant en tout cas, c'est qu'on s'attarde justement sur ces petits métiers à l'intérieur de l'investigation policière, scientifique. Ouais. Hein, c'est-à-dire ceux qui sont spécialistes des petites bestioles, les autres qui sont spécialistes des virus et des petites choses comme ça. Et il y a des petits trucs qui sont assez intéressants, comme nettoyer un cadavre. On a vu comment elle faisait hier avec des coléoptères nécrophages. Hein, c'est assez rapide, c'est pas mal. Ou comment quand t'as un cadavre où t'as des morceaux, enfin t'as plus de cadavre en fait, hein, c'est un type qui a explosé dans sa bagnole, donc il y a des bouts de chair collés partout qui ont grillé, bien bien sûr, parce qu'ils ont été collés à la ferraille en fusion. Enfin, tu vois le genre, quoi.
Ouais, donc bon
après,
appétit.
Pour reconstituer, quoi, tu vois.
12h48, FMR, bon, mais le macaron interdit au moins de 10 ans.
Ça, c'est pas mal parce que le ton est un petit peu enjoué. Hein. On n'est pas dans le registre un petit peu dramatique, cynique, comme ça et tout. Il y a des petits mots qui fusent comme ça. Dans toute bonne série américaine maintenant qui se respecte, il faut qu'il y ait le secret caché du passé ou le truc impossible, l'expérience impossible du passé et tout. Ça concerne l'héroïne, bien entendu, hein, qui a perdu ses parents à l'âge de 15 ans. Ils ont disparu, je sais pas pourquoi. Et bon, c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle fait ce métier, hein, qui permet justement, à partir d'os, de remettre un nom et puis de donner une cause de la mort à des gens qui attendent, qui ont perdu leur enfant, un parent, un proche, tu vois. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, ça pêche quand même un petit peu parce que ça manque singulièrement de rythme. Les scénarios sont quand même assez bien ficelés, hein. Je veux dire, les ficelles sont un peu grosses par moment, je te l'avoue, hein. Mais bon, ça peut quand même relativement bien fonctionner. Il faut dire que David Boreanaz, là, ça va, il a une bonne tête et tout, tranquille. Il a un bon petit rôle, hein. Celui du type qui est justement pas introduit. C'est-à-dire, lui, c'est un flic un petit peu de la vieille école qui fonctionne à l'instinct,
ouais,
tu
du
vois,
terrain,
le feeling et tout ça. Un flic du FBI quand même, attention. Et bon, ben, il joue assez bien. Il joue assez bien son personnage pour le moment. C'est assez rigolo. Il y a du côté des assistants, il y a des petits trucs assez rigolos avec le jeune surdoué là qui est impeccable. Également l'asiatique là qui est spécialiste en informatique, encore une, et qui est très très porté sur la chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, au niveau des répliques, ça y va assez bien. C'est pas mal. Bon, bien entendu, vu les sujets traités, c'est toujours du moins 10 minimum ou du moins 12. Hein, c'est vraiment très heavy, hein. Je veux dire, dans le troisième épisode, il retrouve un cadavre qui est suspendu à une branche à 7 mètres de hauteur d'un arbre, tu vois, quoi. Le cadavre, ça fait quelques jours qu'il est là, tu vois, les corbeaux qui picorent la tête et tout. Et c'est le gag, tu vois, c'est l'intro l'intro de l'épisode, quoi, numéro 3. Et la nana arrive, elle dit où est le cadavre? Ah, il est là-haut et tout. Et au moment où elle dit, bon, bah, il va falloir le décrocher et tout. Et puis, tout d'un coup, bon, comme ça fait plusieurs jours que le cadavre est là, blam, t'as la tête qui tombe et tout, blam, suivi du corps juste après, quoi. Ça fait flatch et tout. Enfin bon, c'est pas mal. C'est assez rigolo quand même, quoi.
T'as un drôle d'humour, toi.
Voilà. Tout ça donc pour Bones, hein. C'est tous les vendredis sur M6. À présent, on va parler de Rocky. Sylvester Stallone, vous n'êtes pas sans savoir certainement que mercredi prochain, là tu vois, je te fais la rubrique ciné aussi, quoi. Sort Rocky Balboa, le Rocky 6.
C'est 6 et l'ultime, hein, théoriquement.
Et l'ultime, pas forcément, d'après ce que dit Stallone, pas forcément. Si ça fait un max de pognon et que on lui dit putain, on te file 100 millions de dollars pour faire la suite, je pense qu'il va réfléchir, et puis surtout si on lui accorde les pleins pouvoirs. Là, le film sort donc mercredi prochain, hein. Bon, ok, il n'y a plus rien à dire, hein. Stallone a pratiquement 60 balais, donc ok, hein, ça va être peut-être la nouvelle vague. Qu'est-ce que va faire peut-être là, une nouvelle vague
Le champion de The Container, une série que je présente.
En tout cas, la télé en fait pas mal sur Rocky, hein. Bon, bah, c'est normal, hein. Y a plusieurs Rocky qui ont été vraiment des musts,
qui ont été historiques. Historique, y a, hein. les prestations absolument magnifiques de James Brown, la musique, la bande son, voilà, et là où on a découvert que Stallone a un frère qui n'est absolument pas manche pour la mise en son, les scènes physiques incroyables.
Ça le fait. Alors, petit retour en arrière sur la saga, vite fait. Le premier Rocky, c'est celui de 76. Alors, Sly Stone, lui, il est déjà Sly Stallone, il est déjà dans le monde du ciné depuis pas mal de temps. Il a écrit son scénario, ça fait 4 ans qu'il essaye de ramer et tout. Quand il approche les producteurs, il y a les producteurs qui lui disent « Ah ouais, ouais, avec Ryan O'Neill dans le rôle titre, ce serait cool. » Ou avec Robert Redford, tu vois. Et lui, il dit non,
mais vous êtes pas cool, les gars.
C'est mon truc, c'est mon machin, c'est moi qui, c'est moi, quoi. Sinon, allez vous faire foutre. Donc, il attend vachement longtemps. Et il tombe sur un jeune réalisateur, un petit peu engagé, on va dire, hein, qui avait fait je me rappelle jamais de son précédent film, qui est une pure merveille, quoi. John Avildsen, quoi, qui donc réalise plus ou moins en indépendant avec Sly Stallone, le premier Rocky. qui se tape quand même 10 nominations et 3 Oscars pour un petit inconnu, c'est quand même pas mal à l'époque. Et du coup, on lui dit ouais, vas-y, là, tu peux y aller, vas-y à fond les manettes et tout. 79, Rocky 2, la revanche. C'est celui avec Apollo Creed, hein, toujours, Carl Weathers. Ok. Le troisième en 82, alors là c'est l'explosion, là c'est le plus connu on va dire, hein. C'est le 3 quand même avec la musique de Eye of the Tiger le combat contre
c'est un noir, non c'est un russe
non c'est pas Apollo Creed, non c'est Mr. T, voyons.
Oh punaise,
c'est Mr. T dans l'œil de tigre. Voilà, en 85 justement, on en parlait à l'occasion de la mort de James Brown puisqu'il avait signé la musique de ce film du Rocky 4, donc Stallone, et là qui doit affronter quelqu'un venu de l'Europe de l'Est, Dolph Lundgren, en 85 donc, hein. Et là c'est plus les Oscars, hein, c'est plus les nominations, c'est les Razzle Awards. Alors tu sais ce que c'est les Razzle Awards?
C'est des très mauvais films,
voilà, ouais. C'est ça quoi, 5 nominations pour le Rocky 4, il récidive 5 ans plus tard pour Rocky 5, 7 nominations au Razzle Award, et c'est même le film que même Stallone dit que c'est le plus mauvais des Rocky. De toute façon, à l'époque il y en avait que 5, et là bon,
oui, okay. C'est clair, les boxeurs ils font toujours le combat de trop.
Voilà, peut-être, hein, peut-être que ça va être un super bon film, hein, on ne sait pas. En tout cas, ça sort mercredi. Et on peut dire que du côté de la télé, ça roule bien.
On n'en sait rien.
Rediff à fond les manettes et
on n'en sait rien parce que pour l'instant, les critiques se tiennent un peu à carreau. Ils ne veulent pas se prendre un poids sur la gueule. Hein. À 60 ans.
Ouais,
même s'il s'est retrouvé étalé dans le coma pendant le tournage, il est encore capable d'en bastonner un ou deux.
Ouais, c'est une teigne lui de toute façon quoi. Rocky, donc il y en a plein à la télé avec mercredi prochain Rocky. Mardi prochain Rocky, l'original donc de 76 de John Avildsen avec Burt Young, avec Carl Weathers donc, hein, et la nana, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Ah, comment elle s'appelle
Adrienne,
la nana? Non mais Adrienne, c'est son nom dans le film quoi. Je l'ai pas noté, bon tant pis pour moi. C'est mardi prochain sur France 2 à 22h35. Il y a également jeudi prochain sur TF6 Rocky 4. Alors bon, hein, ok quoi.
C'est TF6.
C'est à 20h50, hein, de toute façon. Bon bah ok, pour ceux qui ont jamais vu, bon bah regardez, on sait jamais. Et Stallone, à l'époque surfait sur deux vagues, hein, c'est-à-dire il y a eu d'abord Rocky, bien entendu, qui l'a fait connaître du grand public, qu'il a fait starifier, hein, en tant qu'acteur, et après bien il y a eu évidemment. Évidemment, Rambo, et on en profite parce que du Rambo, il y en a plein. Cinéma Frisson vous propose alors un petit peu dans le désordre, c'est un peu con, hein, parce que c'est pareil, hein, Rambo, il y a eu des suites et tout quoi. Le Rambo, l'original de Ted Kotcheff, producteur exécutif sur New York District depuis pas mal d'années. Hein.
Mais ça m'étonne pas parce que c'est vrai que
un vétéran lui. Hein.
C'est vrai que le premier Rambo était très psychologique, était extrêmement intéressant.
Ouais,
était
pas mal,
fort.
Pas mal. Enfin bon, faut pas pousser quand même. C'est mercredi prochain. C'est pas mercredi prochain, c'est mercredi 31 à 13h20. Alors que Rambo 2, la mission de Georges Pancosmatos, on pourra le voir demain à 18h. Hein, il y a encore Richard Crenna. Il y a Charles Napier en plus dans celui-là. Et il y a Rambo 3 également qui sera diffusé mercredi prochain, celui de Peter MacDonald avec Marc De Jonge à la place de Charles Napier. toujours sur Cinéma Frisson, donc mercredi prochain à 22h40. Demain soir, eh bien, 13e rue vous propose une soirée Stallone, Sly, avec un film qui n'a rien à voir avec la boxe. Si, Castagne quand même dedans, mais enfin bon, c'est plutôt un film de prison qui s'appelle Haute Sécurité de John Flynn avec Donald Sutherland et Darlan Flegel, suivi à 22h30 de la saga Rocky. Raconté en un quart d'heure, et à 22h45
c'est facile,
et à 22h45 d'une biographie de Sylvester Stallone, donc ça peut être intéressant, hein. C'est sur 13e rue demain soir à partir de 20h50, c'est une soirée donc Sylvester Stallone.
Youhou.
Et comme on parle de Stallone, tout de suite du Coq à l'âne, une nouvelle émission culturelle après l'arrêt de Culture Club le 22 décembre dernier. Et bien la nouvelle, c'est demain à partir de 18h25 sur France 4, c'est toujours les deux mêmes, hein, ouais. Trégaro, Blakowski.
Ils sont dans le bocal.
Et Stéphane, les agités du bocal. C'est le nom de cette nouvelle émission qui n'est pas en direct, hein, c'est enregistré, c'est le vendredi pour le dimanche, donc avec quelques petites modifications au niveau du fonctionnement par rapport à Culture Club. Là, il y a plus qu'un invité fil rouge et plus ou moins 5 ou 6 chroniqueurs récurrents. Voilà, tout ça c'est demain à partir de 18h25 sur France 4, les invités du bocal.
Alors attention, pour ceux qui connaissent pas, c'est censé être des trucs culturels, mais c'est plutôt cultureux, voire même limite un peu pompeux, et avec le côté entre guillemets détaché parisien, c'est-à-dire assez pédant. C'est un mauvais croisement entre Nova et France Q. C'est un peu dommage. C'était un peu lourd.
Il y a un petit peu de il y a un petit peu d'esprit aussi de Paris dernière, tu vois quoi.
Ouais, genre, mais
dans la façon de causer aux gens et tout ça quoi.
Ouais, vraiment. Mais c'est facile, c'est on va dans les bars et ouais, on montre qu'on est cool et qu'il y a plein de des gens super intéressants qui vont dans les bars, des mecs vachement connus et tout. Ça ressemble à un clip de rap en fait, fait pour les lecteurs de Télérama. Je suis méchant.
Ah, il est méchant. Alors, sur le haut de ma pile de disques et tout, tu prends le premier là. En principe, ça doit être ça. Hein,
yo, voilà.
Et
ah oui.
Tu mets le Mont Fuji. Alors, le morceau de Mont Fuji, je crois que c'est le numéro 7, qui va un petit peu illustrer. Moi, ça me donnera l'occasion aussi d'arrêter de causer et puis d'aller boire un coup. De l'équipe d'aujourd'hui avec toujours son supplément, l'équipe magazine, et Vikash Dorasso en couverture. Et là, il a pas un ballon au pied, non, il a une caméra dans la main et puis il vous regarde en plus, hein, il vous filme en ce moment.
Ouais, Dorasso, elle est très impressionnante cette photo. Elle est...
Dorasso fait son cinéma, hein, c'est à propos de la sortie de Substitute, son film avec Fred Poulet. Et un troisième larron, hein, tout ça, un troisième larron qui s'appelle vite fait là, Pierre Valfiz, hein, qui est en fait le producteur musical de Fred Poulet, mais enfin là qui s'est lancé.
C'est assez étonnant. Donc c'est dans l'équipe où il y a un article cinéma, je veux dire autre chose qu'un documentaire. Je crois qu'on va finir par faire regretter à Thomas de ne pas être venu, mais bon, ça.
Ouais, donc il y a l'article sur la jeunesse du pro. Le film Substitute, on en parle un petit peu. Hein, il a eu pas mal de retentissement après coup à sa sortie, parce que bon, soi-disant, on croyait que Dorasso, il avait rien foutu pendant le mondial quoi de football, mais il était là à filmer. Ouais, c'était pour voir la bite à Zidane sous la douche et des trucs comme ça, tu vois. Non, ça n'a pas été le cas en fait. Et tout le monde lui est monté, Domenech, lui rentrer dans l'art, Vieira, le capitaine d'équipe de France et tout, rentrer dans l'art à Dorasso, enfin bref, ça a été très très loin cette histoire, hein, pour un petit film qui d'ailleurs a obtenu un prix au Festival du film français de Belfort, hein, d'ailleurs c'était sa première sortie, sa première diffusion publique. Et donc il y a, outre cet article qui raconte un petit peu la genèse de cette aventure, Substitute à 3, il y a également l'interview de Vikash Dorasso avec donc le réalisateur Fred Poulet qui est musicien. Un extrait.
23 jours que j'attends à Paris, cherchant un visage qui te connaisse. Je m'échappais du temps et de ma vie pour chercher ton aide et tes caresses. Ah, mais il y a tant de monde, tant de gens que je ne verrai plus jamais. Si j'avais su, mais j'étais un peu pressé. Nous serions les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Je décidais d'arrêter de fumer. Tu disais arrête aussi de boire. Mais je ne peux pas m'arrêter d'exister. Alors merde, qui est-ce que je dois croire? Sur le mont Fuji, le soleil se couchait. Je bois avec des étoiles tous les soirs. Mais tous ces corps qui dansent dans la fumée sont les mêmes que je croise sur les trottoirs. Ah, mais il y a tant de monde, tant de gens que je ne verrai plus jamais. Si j'avais su, mais j'étais un peu pressé. Nous serions les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. 1 million de voitures sous mon balcon. 1 million d'âmes qui attendent l'appel. Comment vivions-nous dans la même maison? sans savoir comment l'autre s'appelle. J'avais du style dans mon costume en vison. Tu portais une robe couleur de ciel. Mais mille millions de siècles de religion brillaient dans tes cheveux blonds comme le miel. J'étais un peu pressé. Nous serions les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Du monde.
Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 99. Et on en est à la partie télévision avec du sport.
Ouais, donc Fred, c'était Fred Poulet, donc Mont Fuji, extrait de son cinquième album qui s'appelle Milan Athletic Club, qui en fait c'est une relecture de quelques morceaux qui figurent dans les quatre albums précédents. ouais pas mal. Si non, mais c'est vachement nouveau hein, c'est pas moi j'aime bien. Et tout ça pour vous dire aussi que le film sort en salle, donc ça sort en salle le 14 février prochain. Donc
pour la Saint-Valentin.
Ouais, cool, tu vas quoi.
Super. Et chérie, je t'emmène au cinéma. Ah ouais, pour voir quoi? Un film avec un joueur de foot. Super.
Alors c'est un arrêt, c'est attention hein, là, vraiment quoi. Ok quoi. Bon, parlons d'autre chose, pas du tout d'arrêt, c'est tout suite de la saga concernant Secret d'héritage tous les samedis soirs sur Canal Jimmy, cette série soap hollandaise absolument magnifique.
Oh là là, j'ai encore oublié le jingle.
T'as oublié le jingle, c'est pas grave, parce que là, ben il s'est quand même passé des choses un samedi dernier et des choses très graves. En effet, Bess, la belle-mère donc des trois sœurs, la deuxième femme de Klaas qui se fait assassiner dès le début du premier épisode, hein, qui donc donne un sens un petit peu à la suite de cette saga. Bess est assassinée dans les bois et elle agonise doucement. Frédéric vient, essaye de la secourir, mais elle meurt dans ses bras. Flore, pendant ce temps-là, a accouché, quand même, hein, ça faisait 15 jours qu'on attendait qu'elle accouche, bah, ça y est, elle a accouché, hein, c'est un beau petit bébé, mais le papa, Dan, bah, lui, il est pas bien du tout, parce qu'il est retenu prisonnier, et la gueule défigurée, un petit peu castagnée, comme ça, pas mal, par l'ancien homme de main de Roy, hein, qui travaillait également à la laiterie, qui s'était fait virer d'ailleurs hein, de cette laiterie par Flore et qui travaille maintenant pour un caïd du coin. Et là, c'est pas triste parce que Dan, en principe, s'il a des problèmes, c'est parce qu'il doit pas mal d'argent, tu vois. 200 000 euros, tu te rends compte, ça fait pas mal d'argent quand même. Hein. Roy, lui, il est sorti de prison, hein, ça je vous l'avais dit déjà. Hein, mais, Roy, c'est en fait l'amant de Bess. Hein, Bess qui est la deuxième femme de Klaas. Ok, t'as toujours su. Eh ben Roy qui est le père d'ailleurs du nouveau petit ami l'autostoppeur là que Paula a pris en stop. Roy, il a mis, et là c'est assez crucial parce que bon, en fait c'est la fin du troisième épisode de samedi dernier. Hein, il a mis la main sur un enregistrement verbal du testament de Klaas de Witt. Et ça remet tout en cause hein, parce qu'il est postérieur au testament écrit et qui donc a été réalisé hein, dans lequel il y a le partage entre les trois sœurs plus Bess de l'héritage de Klaas. Et cet enregistrement en fait a été fait juste avant l'assassinat de Klaas. Donc attention, qu'est-ce qui va se passer ce soir? On le saura à partir de 20h45 sur Canal Jimmy. Secret d'héritage. Sinon au niveau des autres séries, c'est vraiment le tout venant hein, de toute façon. Après vision de Angela's Eyes, une nouvelle série dont je vous avais parlé samedi dernier, qui est diffusée le dimanche après-midi sur TF1 après Walker Texas Rangers à 14h15, interprétée par Abigail Spencer, hein, Angela's Eyes, l'histoire de cette inspectrice qui a un don pour reconnaître les gens qui mentent, qui d'après le comportement, d'après la façon de parler, d'après la gestuelle et tout, elle arrive à dire ok, celui-là raconte des conneries et tout, celui-là est contrarié, celui-là est pas bien et tout. Et donc ça peut paraître bateau, ça peut paraître je veux dire simpliste, c'est-à-dire on se dit ça va pas tenir la route sur la longueur. C'est pas mal au vu du premier épisode qui a été diffusé dimanche dernier, donc bah, je vous convie à essayer de regarder celui de dimanche de demain, donc sur TF1 à partir de 14h15. C'est assez intéressant quand même comme série policière. Sinon, bien entendu, lundi soir sur Arte à 20h40, c'est Regenesis avec Peter Otterbridge, tous les autres et tout. Hein, c'est ouais, c'est pas mal.
Et heureusement qu'Arte fait une version voix originale parce que alors, c'est quand même beaucoup plus agréable en VO.
Ouais, mais la version française est pas mal. Disons que l'avantage de la version française, c'est quand il commence à se lancer dans des explications scientifiques.
Ouais, si, c'est vrai que moi j'ai si le sous-titrage qui saute des
si
fois.
Si t'as pas les sous-titres exacts, eh ben laisse tomber, t'es largué. Mais déjà que t'es largué, parce que bon, sont vraiment des trucs très pointus.
Très technique.
C'est vraiment très pointu. Hein, c'est à la pointe de la recherche, donc laisse tomber. C'est pas la peine. Parce que moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que pour regarder d'après leur système et tout, comme j'ai pas la bonne zapette, hein, c'est selon que vous ayez le câble, le satellite ou simplement une télé analogique, voire la TNT, vous avez une zapette qui est plus ou moins différente. Alors si vous avez la TNT, il n'y a aucun problème, vous avez le bouton qui correspond donc à ce qui vous indique avant chaque épisode, donc vous pouvez mettre en version originale.
En clair, tous les programmes qui passent en première partie de soirée sur Arte sont disponibles en VO.
Ouais, mais
c'est aussi, si vous les avez en analogique, vous l'avez aussi par le NICAM, et après effectivement ça dépend, bonne chance. Alors il y en a qui vont sur la chaîne allemande et qui demandent à leur téléviseur après les sous-titres en français. C'est un peu tirage de cheveux, bonne chance.
Ouais, parce que moi, en fait, pour regarder en version originale sous-titrée, eh ben, je suis obligé de passer par l'analogique, c'est-à-dire de couper mon décodeur câble pour pouvoir regarder la télé sur les 22 chaînes que j'ai normalement sur l'analogique. Tu vois un petit peu le bordel, quoi. Alors que si je laisse en numérique, en fait, je peux avoir la version originale, mais sans les sous-titres. Donc, ouais. C'est un petit peu heavy.
Ah, moi, c'est un peu plus marrant. J'appuie sur la touche info, puis je remonte trois fois. Je appuie sur version linguistique. Là, il me propose VF ou VO. J'appuie sur VO. Je quitte en appuyant deux fois sur info, puis j'appuie sur étoile. Et puis je vais à gauche et puis trois fois en haut pour allumer les sous-titres. Et j'appuie sur la touche étoile. Là, ça passe normalement. Normalement.
Mais ça vaut quand même le jus, hein, de toute façon. Alors, lundi, deux nouveaux épisodes. Alors, la première fois que j'avais vu cet épisode, c'était assez rigolo parce que on était pratiquement en plein dedans. Non, on en sortait, quoi. Mais enfin, bon, ça avait été, il y avait eu un pic. C'était la grippe aviaire. Là, le premier épisode s'appelle Le Virus Historique, dans lequel il y a une entreprise qui est suspectée de vendre des poulets infectés. Il y a encore d'autres histoires parallèles. Hein. Là, tu vois, il commence à y avoir quelques petits trucs au sujet de la grippe espagnole. Justement, avec Ira, il était en train de rechercher des petits trucs et tout, quoi. Mais Ira meurt. Hein, donc dans le dernier épisode de lundi dernier dans cet épisode en même temps, ben il y a Jill, la nouvelle virologue, donc chargée de la remplacer, qui va arriver, et en fait tu vas voir comment il va la tester, David Sandstrom, tu vas vite comprendre comment ça marche, quoi. Dans L'œil de la baleine, c'est un petit peu plus émouvant parce que ça nous raconte l'histoire de la fille de David Sandstrom et de Mick, ce petit garçon qui a été cloné par son père qui voulait faire un clone de son frère, parce que son frère avait des maladies génétiques depuis la naissance, et donc il a créé un clone, un deuxième fils qui lui permet d'avoir des organes de rechange pour pouvoir soigner son premier frère.
Dont il a pu corriger le gène déficient.
Bon, le truc, c'est bien
mais
plombant.
Ouais, c'est ça, t'as 15 ans avec et t'es un
gosse,
clone.
Avec le gosse qui dit je suis un clone, de toute façon je vais mourir et tout. Et puis bon, bah ok, je vous laisse regarder le baleine, c'est vraiment très très émouvant comme épisode et tout. Hein, ce voyage où ils vont vraiment voir les baleines. Hein, mais c'est vraiment très très bien. De toute façon, Regenesis, donc c'est lundi soir 20h40 sur Arte. Et mercredi également, il y a Dr House sur TF6, à partir de 20h50. Là aussi, c'est grand. Hein. Le premier épisode de mercredi dernier, c'est un cycliste qui casse la gueule, qui tombe dans les pommes. Et en fait, c'est un type qui dit « Oui, oui, je me dope ». Alors, un cycliste américain, champion reconnu internationalement.
Bon, mais c'est normal, je sens un cancer.
Et le type... non. Et alors, le type, il dit « Oui, je prends de tout, sauf de l'EPO. Et mec, ah ouais, mais s'il prend pas l'EPO, c'est pas normal, il ment et tout. Enfin, ça, c'est le leitmotiv de Dr. House quand même. Un mec dit pas quelque chose, il ment, c'est normal, c'est un patient, les patients mentent. Enfin bon, c'est pas mal, c'est assez rigolo en fait. Donc tout ça, c'est dans Dr. House. On a terminé par une petite sélection, comme c'est Rocky à l'honneur et tout, une sélection de films sévèrement burnés toute la semaine. Avec ce soir sur RTL9, déjà un des classiques, un grand classique hein, du Western Spaghetti à 20h45, Sabata, le Gianfranco Parolini de 69, avec Lee Van Cleef dans le rôle titre, William Berger et Chiu Gulager, que je savais même pas qu'elle était dans ce... déjà là, quoi, tu vois, enfin bon, voilà, hein, t'en apprends des choses. Et ce soir également sur TF6, plus tard, très très tard, à 23h20, eh bien, Agent Destructeur de Damien Lee. Damien Lee qui avait déjà fait un film avec Jeff Fahey. Là, ben, c'est Dolph Lundgren et Nathalie Redford, ainsi que Alexandre Kuznetsov, où t'apprends que dans ce téléfilm, la mafia et le gouvernement russe, en même, tu vois, ils collaborent ensemble, hein, ils veulent mettre la main sur un virus mortel. Et les virus, on n'en sort pas. Hein. Alors, demain soir, au niveau des films sévèrement burnés, eh ben, il y a bien sûr du Clint Eastwood. Alors, la possibilité de regarder, il y a 3 films de Clint Eastwood demain soir, simultanément. Sur RTL9, Inspecteur Harry. Sur TPS Star à 20h50, Dans la ligne de mire, hein, le film avec John Malkovich. Et sur Paris Première, Pendelé haut et court, le western de Ted Post. Et sur TPS, Cine Extrême demain. Là, c'est du bon. Là, c'est vraiment du très très bon, hein. Demain soir à 21h, Les Guerriers de la Nuit, le film de Walter Hill de 79. Avec Michael Beck, James Remar, j'en passe des meilleurs. Enfin bon, ça c'est du très très bon. Lundi sur RTL9, ouais, RTL9 c'est généralement du film sévèrement burné. Hangfire, un petit truc sympathique de Peter Maris, moins 12 quand même de 91. C'est le dernier film de Brad Davis. C'est Brad Davis, Midnight Express. Il y a également John Michael, Supercopter, Vincent et Kim Delaney. 91, bah juste après ça, tu vois, il a commencé par faire New York Police Blue, quoi. Mardi sur RTL9, il y a Mad Max 3 à 20h50 et suivi. Alors bon, pour moi, c'est un bon Mad Max quand même, mais enfin bon, c'est le moins bon des trois. Mais c'est suivi surtout à 22h50. Là, ça fait, il le diffuse en boucle pratiquement toutes les semaines. Mais profitez-en si vous l'avez jamais vu celui-là. C'est un Walter Hill de 86. Hein, il a essayé de faire du Peckinpah là, tu vois, mais vraiment à fond, quoi. Extrême Préjudice avec le casting de l'enfer qui tue. Et tout, oui. De toute façon, chaque fois que le film passe, je vous le ressors. Ça va être un Action Jackson de plus avec Nick Nolte, Powers Booth, Rip Torn, Michael Ironside, Clancy Brown. Vas-y, mon gars, tu peux y toujours y aller. Mardi encore. Mardi sur TPS In Extreme. Alors là, il y a un film très intéressant. Hein, on en parlait avec Thomas la semaine dernière à propos des films de Woman in Prison, Fille en cage, et de la sculpturale Pam Grier. Eh bien, Pam Grier, yes. On peut la voir mardi prochain sur TPS In Extreme à 21h dans un film filmé à la même époque. Hein, c'est le film philippin et tout. Eddie Romero, je suis sûr qu'il a réalisé aussi un film de femme en cage et tout. Avec Pam Grier et Margaret Markov. Et là, ça s'appelle Black Mama, White Mama. En fait, c'est.
Ah, excellent!
C'est la poursuite impitoyable.
C'est des femmes en chaîne, mais qui se barrent cette
voilà,
fois-ci.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est une évasion entre deux détenus qui peuvent se sentir.
Dans une dictature à la con, et il y a une femme blanche et une femme noire qui sont enchaînées ensemble.
Voilà.
Très drôle.
Enfin bon, ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas Pam Grier, hein, vraiment, quoi.
Oui, je vous le dis. Et puis, elles vont souvent dans la boue, d'ailleurs.
Ouais, c'est une figure imposée du film du film philippin et du film de femme en cage. C'est une figure imposée dans chaque film. Tu as une séance
fight
de combat dans la boue. Ça, c'est obligé, hein, de toute façon. Hein. Ah, mais c'est pour ça que c'est bien, quoi.
Depuis, souvent, c'est devenu moderne, c'est dans le gelée de groseille.
Ouais, mais c'est moins bien, quoi. TF6, mardi prochain à 20h50, propose. Un Sam Raimi qui est pas dégueulasse à regarder, un mort ou vif, c'est sa contribution au western, avec quand même le casting haut de gamme, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, il était pas encore connu à l'époque, et Leonardo DiCaprio. W9, mardi prochain, 20h45, vous propose également un Dolph Lundgren, filmé par Ted Kotcheff en 95, The Shooter, où il y a également Maruška Detmers. Bon, enfin, il est assez moyen parce qu'il a été filmé en Europe et tout, hein, en Tchécoslovaquie pour une grande partie. Moi, bon, c'est pas terrible, terrible. Par contre, jeudi, il y a du lourd, du gros, du calibré, du burné, du gros classique, hein, c'est un Steven, qui s'appelle Nico, c'est le Andrew Davis de 88 avec Sharon Stone, avec Pam Grier également, ouais, avec Steven Seagal.
Yes.
Et le regretté Henry Silva. C'est jeudi prochain sur 13e rue à 20h50. Et c'est suivi à 22h35. Ah, c'est la soirée, c'est vraiment burné, tu vois. 22h35 d'une daube infâme parce que c'est la suite. C'est la deuxième suite, je crois. Il y avait le film original. Ensuite, ils ont fait une suite qui est un peu pourrie, mais tout de suite après. Et là, 10 ans après, ils refont Universal Soldier, le combat absolu, avec JCVD, bien sûr. Michael J. White et Xander Berkeley. Mais enfin, bon, c'est vraiment pour les pervers. Hein. Et je termine avec jeudi prochain également sur la chaîne Action à 20h40. Le très bon film de Dennis Hopper qui s'appelle Colors, avec Sean Penn et Robert Duvall, hein, dans le monde des Bloods et des Crips de Los Angeles.
Avec la bande son de Ice-T, énorme.
Entre autres, quoi, mais c'est absolument magnifique, hein, c'est magnifique. Donc c'est sur Action jeudi prochain à partir de 20h40. Bah voilà, je crois que j'ai rien oublié.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport, il dit que des méchancetés.
Un peu obligé quand même après avoir après cette impro bloquée des cyclistes. Mais je vous rassure, ça continue. Dans quelques instants, il y aura évidemment le dopé de la semaine. C'est dans Ça c'est du sport, le magazine des vestiaires et des commentaires hargneux et méchants. Non, j'arrête justement. Hein ? Bon. C'était le supplément week-end numéro 99. La semaine prochaine, pas d'émission. Nous sommes au festival d'Angoulême. Enfin, moi et Thomas. Du sport, lui, sera fidèle à l'antenne pour commencer sa série du sport en temps et en heure. Contrairement à maintenant, puisqu'il est 13h19. Top. Donc, 19 minutes des bords, comme d'hab. Comme quoi, on y est arrivé. Sinon, la suite des programmes sur FMR 89.1 MHz à 15h, Zama Farai, ça c'est du reggae, 17h, Big Bang, 18h, Vie d'ordure, 19h, on est chez nous, 20h, la Cetero Experience, et 21h30, Stay Tuned! Et nous pouvez réécouter tous les suppléments week-end sur notre site internet www.radio-fmr.net ou alors sinon vous cherchez supplément week-end, radio, FMR, podcast, MP3, ce que vous voulez. Vous allez forcément tomber sur un site qui réplique nos émissions. Elles sont pratiquement toutes disponibles à écouter. Et puis voilà. Vous écoutez FMR, nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin. C'était donc le supplément week-end numéro 99 à dans 15 jours pour la 100e. Et d'ici là, eh ben, on casse l'ancien habillage. Adieu. À plus.